Vie fondamentale, 13 janvier 1983, Père Philippe Rimond.
Alors nous allons terminer cette question sur la théologie telle que saint Thomas nous la présente. L'article 9, l'écriture sainte doit-elle user de métaphores ? Puis ensuite, l'écriture sainte, sous une lettre unique, a-t-elle plusieurs sens ? On n'a pas vu les objections. Oui, c'est bien de les voir. Je vous les donne. Il ne paraît pas, saint Ambroise. Donc c'est l'article 8, cette doctrine argumente-t-elle, qu'on rejette les arguments là où c'est la foi qu'on cherche. Or, dans cette doctrine, c'est la foi surtout que l'on cherche. Ces choses sont écrites, dit saint Jean, afin que vous croyiez. La doctrine sacrée ne procède donc pas par argument. Réponse de saint Thomas. Si effectivement les arguments de la raison humaine sont impropres pour démontrer ce qui est de foi, il reste qu'à partir des articles de foi, la doctrine sacrée peut prouver autre chose, comme on vient de le dire. Vous voyez, tamen ex articulis fidei, ex doctrina ad alia argumentatur, ut supra dictum est. Donc, voyez bien la réponse de saint Thomas. La montée vers la foi, vers l'adhésion de foi qui implique le mystère de la parole de Dieu. Cette montée vers la foi ne se fait pas par voie d'argumentation. La foi n'est pas une conclusion. La foi est un point de départ. C'est un point de départ par lequel j'adhère à la parole de Dieu. La foi est un don gratuit. Ce n'est donc pas une conclusion. Mais il peut se faire, puisque la foi est enracinée dans l'intelligence humaine. C'est la greffe dans l'intelligence humaine. Si la foi est enracinée dans l'intelligence humaine, la foi peut se servir de raisonnement. Je dis bien, elle peut se servir de raisonnement, parce que la foi ne supprime pas la manière dont nous connaissons. Nous connaissons par mode de raisonnement. Nous avançons par mode de raisonnement. Nous verrons que l'analogue à la croissance au niveau spirituel, c'est le raisonnement. La croissance de la vie végétative se retrouve dans la vie intellectuelle par le point de vue du raisonnement. Le raisonnement permet de s'étendre, de grossir, d'être des brebis grasses, n'est-ce pas, au point de vue de l'intelligence. Alors, c'est le raisonnement. Eh bien, la foi ne supprime pas ce mode de raisonnement. Et donc, on peut, à partir de la parole de Dieu, se mettre à raisonner en se servant de ce que l'intelligence humaine nous fournit. Alors, on a comme une extension de la foi. La théologie est comme une extension de la foi qui permet justement de développer toutes les virtualités contenues dans la parole de Dieu, toute la richesse intelligible contenue dans la parole de Dieu. Elle s'étend. C'est de l'ordre de la croissance. C'est de l'ordre quantitatif, si vous voulez, comparative à la foi. La conclusion théologique, est pour mieux comprendre la parole de Dieu. La conclusion théologique n'est pas non plus une fin, cette extension à partir de la parole de Dieu, c'est faut revenir à la parole de Dieu. La théologie vient de la parole de Dieu, elle retourne à la parole de Dieu, mais elle est sans toutes les richesses qui sont contenues dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le point de départ, c'est la parole de Dieu qui est le terme. Donc, la foi qui adhère à la parole de Dieu est au point de départ et elle est au terme. Et entre deux, il y a tout ce développement théologique.
Oui. Quand le Saint-Père dit qu'il a réfléchi sur sa propre foi, et ça lui a donné une maturité plus grande pour sa foi.
Ça peut.
Comment peut-on ?
Ben, c'est évident que ça donne une maturité plus grande à la foi, parce que la foi s'enracine dans l'intelligence. Si votre intelligence se purifie grâce à la philosophie, votre foi peut s'enraciner davantage. Prenez une intelligence marxisée ou une intelligence positive, qui arrive encore plus souvent. J'ai une intelligence marquée par le positivisme, mais je me convertis. Donc, il y a un éveil qui se fait là, une lumière divine qui est donnée, même si j'avais la foi avant, mais elle était complètement mise entre parenthèses. Je me suis développé dans la perspective d'aujourd'hui et je suis devenu positiviste. Puis tout d'un coup, une lumière de foi, où je suis devenu kantien, parce que c'était Clavel, c'était comme ça, parce qu'il était devenu kantien. Et puis, un beau jour, la lumière de foi lui est redonnée. Est-ce qu'il l'avait perdue ou pas perdue? Je n'en sais rien. Toujours est-il que, de nouveau, la lumière de foi lui est donnée. Et alors, à ce moment-là, la foi va s'exercer dans une intelligence kantienne. Hein? Ou dans une intelligence positiviste. Vous comprenez que c'est assez difficile pour la foi de s'exercer avec une intelligence kantienne. Parce que le Kant insiste sur le conditionnement de l'intelligence humaine et alourdit, ne donne aucune finalité. Or, la foi est à l'aise par rapport à la finalité de mon intelligence, pas par rapport à mes raisonnements. Alors, l'exercice de la foi est pénible et difficile. S'il y a une purification de l'intelligence grâce à une philosophie saine, oui, c'est ça dont parle le Saint-Père. Alors, à ce moment-là, la foi s'enracine plus facilement. Elle s'étend davantage. Elle s'étend, ça fait d'abord l'extension. Oui. Et alors, comme elle s'étend, la foi peut rayonner davantage. Être davantage à l'aise. Alors, elle rayonne, et par ce rayonnement, elle acquiert une conscience plus grande au point de vue de maturité. Mais c'est pas les raisonnements qui vont intensifier la foi. Mais la philosophie, qui ne reste plus que les raisonnements, puisque ça implique une découverte des principes, la philosophie va purifier l'intelligence et permettre par le fait même à la foi de pouvoir rayonner davantage. Et c'est ce domaine quelque chose de plus. Vous voyez, c'est ce que saint Thomas souligne dans le corps de l'article, du reste, on l'avait vu les dernières fois, et souligne ici. Ad alia argumentatur, ad alia, c'est les ad. Alia. Ça, c'est les conclusions théologiques. Les conclusions théologiques ne sont pas la parole de Dieu, mais ils étendent la parole de Dieu. Et ils permettent par le fait même, quand je reviens à la parole de Dieu, de mieux comprendre toute l'intensité de la parole de Dieu. Alors, ce que je vous ai dit, hein, toujours, il faut bien se rappeler toujours les deux choses. Purification infuse, qui se fait par les dons du Saint-Esprit. Purification acquise qui se fait grâce à la théologie et à la philosophie. Qui se fait aussi grâce à l'acquisition des vertus, c'est la même chose. Les vertus, c'est aussi une purification acquise. Quand on vous fait faire des exercices de noviciat, et des exercices de noviciat, c'est balayer, c'est éplucher les légumes, c'est alors que vous avez envie de travailler, c'est travailler intellectuellement. Vous devez éplucher les légumes, faire la cuisine, ça c'est l'exercice des vertus. C'est excellent. Et l'exercice des vertus, alors ça purifie l'affectivité, exactement comme l'intelligence est purifiée par le point de vue de la théologie, par le point de vue de la philosophie. Mais c'est des purifications actives. Tandis que les purifications infuses, c'est les dons du Saint-Esprit. Bon, alors voyons maintenant la seconde objection. Si cette science devait argumenter, ce serait ou par autorité ou par raison. Mais prouver par autorité ne semble pas convenir à sa dignité, vu que selon Boès, l'argument d'autorité est de tous le plus infirme. Quant aux preuves rationnelles, elles paraissent contraires à la fin, puisque selon saint Grégoire, la foi n'a pas de mérite, là où la raison procure une connaissance directe. Par conséquent, la doctrine sacrée n'use pas d'argument. Vous voyez, à faire de la théologie diminuerait le mérite. Donc ce serait juste inverse. Ça, selon la parole de Boès. Hein. Alors voyons la réponse de saint Thomas. Il est certain que notre doctrine doit user d'arguments d'autorité. Et cela lui est souverainement propre. Cela tient à ce que les principes de la doctrine sacrée nous viennent de la révélation. Et qu'ainsi, on doit accorder foi à l'autorité de ce par qui la révélation a été faite. La théologie procède par voie d'autorité. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pour ça que c'est beaucoup moins séduisant que la philosophie. Parce que ça procède par mode d'autorité. Et que c'est vrai, l'autorité pour l'intelligence humaine, c'est la dernière des raisons. Mais cela ne déroge nullement à sa dignité. Car si l'argument d'autorité fondé sur la raison humaine est le plus infirme, celui qui est fondé sur la révélation divine est de tous le plus efficace. Toutefois, donc on montre bien, l'autorité divine, c'est évidemment l'argument le plus efficace. Tandis que l'autorité humaine, c'est évidemment le motif le plus infime. Il y a, cite, infirmissimus. Hein, infirmissimus, l'autorité. Ça fait très bien comprendre ce que c'est que l'obéissance. Parce que l'obéissance repose sur l'autorité. Et alors, pour l'intelligence qui est là, on a toujours en nous, enfin, le petit qui regarde, qu'est-ce que ça veut dire, l'obéissance? Eh bien, pour l'obéissance, vous voyez, quand on obéit, on accepte l'autorité. Le petit païen qui veille en nous, qui regarde, dit ce motif, infirmissimus. Tu es un imbécile, autrement dit, ça veut dire ça. Tu es un imbécile d'obéir. Parce que ce motif, infirmissimus, le plus infirme qui soit, le plus débile qui soit. Alors, obéir augmente ma maturité divine, mais le petit païen qui est en moi dit, c'est idiot. Infirmissimus. C'est très très joli, hein, c'est la prank Saint Thomas. On voit très bien compris ça. Et c'est parce qu'on obéit par mode d'autorité. Vous obéissez toujours par mode d'autorité. S'il n'y avait plus d'autorité, il n'y aurait plus d'obéissance. Tandis que l'intelligence humaine essaie d'éviter le plus possible l'autorité. Si vous pouviez vous passer d'autorité au point de vue de l'intelligence humaine, vous vous en passeriez, mais radicalement et tout de suite. Tandis que du côté pratique, du côté obéissance, c'est l'autorité qui me permet d'obéir. Vous voyez ? Alors ça, c'est très très important au point de vue psychologique, au point de vue des réactions psychologiques qui sont en nous. Et surtout dans notre monde d'aujourd'hui, vous voyez ? C'est de comprendre, obéissance, regarde, autorité. Un être obéissant cherche l'autorité. Il la cherche pour s'appuyer dessus. Il s'appuie dessus et il coopère. Hein? Il coopère. L'obéissance est une coopération avec l'autorité, il faut bien. Tandis que pour l'intelligence, pour l'intelligence spéculative, l'intelligence du philosophe, ou du philosophe qui commence à pousser en nous. Parce que quand il commence à pousser, le philosophe, il est particulièrement fébrile et il est particulièrement virulent, n'est-ce pas, quand commence la philosophie. Donc l'intelligence du philosophe qui commence à pousser en nous, il essaie d'éviter le plus possible l'autorité, parce que l'autorité, du côté de l'intelligence, c'est infirmissimus. C'est ce qu'il y a de plus débile. Donc on essaie d'éviter le plus possible l'autorité. C'est très curieux ça, c'est très important de comprendre ça. C'est très important de comprendre que notre volonté aimante, qui implique une intention de vie droite, et surtout divine, va chercher l'obéissance, puisque l'obéissance est le moyen le plus divin, comme moyen. Donc on cherche l'obéissance, on cherche l'autorité. Mais le petit païen philosophe qui est en nous, il demeurera jusqu'au bout. Il y aura toujours en nous l'œil du païen philosophe. Il y a toujours. Eh bien, il considérera toujours l'autorité comme le moyen le plus débile. Parce que c'est vrai, l'autorité du côté spéculatif, c'est infirmissimus. C'est quelque chose qui n'est pas agréable, et non seulement qui n'est pas agréable, mais qui n'est pas bon. Soyez autonome dans votre intelligence. Et soyez dépendant dans votre vie pratique. Vous voyez, ça fait un petit exercice qui n'est pas commode. Hein? Parce qu'il s'agit d'acquérir une autonomie du côté de l'intelligence. Et il s'agit d'être de plus en plus aimant d'obéissance du côté pratique. Du côté pratique, on doit aimer l'obéissance, donc on doit aimer l'autorité. On la recherche plutôt que l'éviter. Parce qu'il y a 36 moyens d'éviter l'autorité, vous savez bien. C'est sûr. Éviter l'autorité, c'est justement... l'intelligence veut l'éviter. C'est très curieux, ça. Réfléchissez, vous allez voir tout de suite. C'est intéressant de voir cette chose-là. Et ça, c'est très bien. Vous voyez, et saint Thomas fait la distinction. Si on ne fait pas la distinction entre l'intelligence pratique et l'intelligence spéculative, comme la plupart des gens qui vivent au niveau dialectique, notre monde vit au niveau dialectique. Et les théologiens d'aujourd'hui vivent au niveau dialectique. Alors, où vous avez des théologiens à plat vent, où vous avez des théologiens révolutionnaires. Et vous n'avez plus de saints. Parce que celui qui est un plat ventre n'est pas un saint. Vous voyez ? Et c'est très vrai, vous ne pouvez plus arriver à faire cette distinction entre les deux. La dialectique refuse la distinction entre le spéculatif et le pratique. Donc, où vous voudrez par tous les moyens l'autorité. Mais vous voudrez l'autorité partout. Ou au contraire, vous direz c'est impossible. Non, c'est impossible. Alors, vous avez l'attitude révolutionnaire dans l'ordre pratique, parce que l'attitude révolutionnaire n'est pas spéculative. C'est jamais très intelligent d'être révolutionnaire. C'est pas des grosses têtes, ceux qui sont révolutionnaires. C'est des gros bras. N'est-ce pas ? C'est plutôt comme ça, si vous voulez. C'est ce qui sont révolutionnaires. Ou, j'allais dire, des grosses gueules, hein, parce que c'est plutôt ça, hein, c'est celui qui parle comme un dragon. Alors il est révolutionnaire. Il faut bien des arguments massifs. Et au fond, c'est très intéressant de voir ça, parce que quand vous voyez ça, vous répondez à la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave. Vous savez bien, Hegel donne, au début de la dialectique du maître et de l'esclave, Hegel compare Abraham qui obéit. Et le grec qui est libre. Il les met sur le même plan, c'est exactement ça, c'est pour ça que tout est dit là-dedans, quand on comprend. Abraham obéit. Oui, il obéit parce qu'il est croyant. Mais il garde son intelligence, il garde sa prudence. Il est intelligent, Abraham, il a une expérience à partir de 75 ans. Tandis que le grec est libre. Il n'obéit pas. Alors évidemment, Hegel exalte le grec qui obéit, qui est libre. Et Abraham, c'est le serviteur. Et en fond, vous voyez, il est obligé de mettre sur le même plan Abraham et le grec, alors c'est deux plans tout à fait différents. Il les met sur le même plan parce qu'il est dans une perspective dialectique. Il ne peut pas distinguer le point de vue de l'intelligence spéculative et le point de vue pratique. Bon, alors ça, il faut y réfléchir longuement. Parce que ce sont ces choses-là qui nous permettent de ne pas tomber dans les confusions actuelles et de comprendre que l'intelligence a besoin de sa nourriture et que l'obéissance, c'est ce domaine pratique dans lequel nous vivons. Alors on obéit à Dieu, c'est sûr, et la foi nous fait obéir à Dieu, mais pas aux hommes. Hein. On ne peut donner son intelligence qu'à Dieu. Toutefois, la doctrine sacrée utilise aussi la raison humaine, non point. Donc la raison humaine. La doctrine sacrée utilise aussi la raison humaine, non point certes pour prouver la foi, ce qui serait abolir son mérite, mais pour mettre en lumière certaines autres choses qu'elle contient. Ad manifestandum aliqua alia quae traduntur in ac doctrina. Vous voyez, c'est très vague. Hein? Ad manifestandum aliqua alia. Quelque chose d'autre qui est contenu dans l'adhésion de foi, mais qui n'est pas explicité dans l'adhésion de foi. Comme donc la grâce ne détruit pas la nature, mais la parfait, c'est un devoir pour la raison naturelle de servir la foi, tout comme l'inclination naturelle de la volonté obéit à la volonté, obéit à la charité. Ainsi l'apôtre dit, nous assujettissons toute pensée dans l'obéissance du Christ. De là vient que la doctrine sacrée use aussi des autorités des philosophes, là où, par leur raison naturelle, ils ont pu atteindre le vrai. Saint Paul, dans les Actes, ne reproche-t-il pas ce dire d'Aratus, « Nous sommes de la race de Dieu, ainsi que l'ont affirmé certains de vos poètes. » Il faut prendre garde, cependant, que de telles autorités, la doctrine sacrée, n'usent qu'au titre d'arguments étrangers à sa nature et n'ayant qu'une valeur de probabilité. Au contraire, c'est un usage propre qu'elle fait des autorités de l'écriture canonique. Quant aux autorités des autres docteurs de l'Église, elle en use pour une argumentation propre aussi, mais seulement probable. Ceci tient à ce que notre foi repose sur la révélation faite aux apôtres et aux prophètes, non sur d'autres révélations, s'il en existe, faites à d'autres doctrines. C'est pourquoi, écrivant à saint Jérôme, saint Augustin déclare, les livres des Écritures canoniques sont les seuls auxquels j'accorde un tel honneur que je crois très fermement leur auteur incapable d'errer en ce qu'ils écrivent. Les autres, si je les lis, ce n'est point parce qu'ils ont pensé une chose ou l'ont écrite que j'estime vrai, quelque éminent qu'il puisse être en sainteté et en doctrine. Donc, voyez ce qui est dit là, ça c'est aussi très important. C'est de montrer comment l'intelligence peut se mettre au service de la foi. Alors, au fond, en théologie, hein, j'aurai des arguments qui viendront de la parole de Dieu, l'autorité divine. Arguer à partir de l'autorité divine, c'est une argumentation propre à la théologie. Alors, arguer à partir de l'autorité divine, voyez ce que ça veut dire. Hein? C'est tout simplement prendre dans tel livre de l'Écriture telle parole qui vient confirmer ou expliciter telle autre parole. C'est comme ça qu'est née la théologie. La théologie est née par une confrontation des paroles divines entre elles. Et c'est pour ça que les pères de l'Église n'hésitent pas de dire que la théologie, c'est comme des silex qui sont frottés les uns sur les autres, d'où jaillit l'étincelle. La parole de Dieu est un silex, c'est dur, parce que c'est infaillible. Alors on met telle parole en face de telle autre parole. Deux paroles qui peuvent paraître contradictoires. Et en les mettant l'une par rapport à l'autre, alors jaillit la lumière. Et donc ça, c'est une argumentation qui est tout à fait propre, parce qu'elle repose sur l'autorité propre du croyant. Mais je peux me servir aussi d'une autorité autre, l'autorité du philosophe, l'autorité des philosophes. Il est évident que quand je me sers d'Aristote, ce n'est pas tout à fait du même, du même degré d'autorité que la parole de Dieu. Alors, je peux me servir là de son autorité comme de quelque chose qui est pris de l'extérieur. Et puis, je peux penser sans me servir d'autorité. Troisième position. Une, deux, trois. Je dirais, alors à ce moment-là, je me sers non plus d'une autorité, mais je me sers de raisons qui sont évidentes pour moi. En observant ces raisons qui sont évidentes pour moi, je réalise proprement la théologie. Vous voyez, donc il y a trois aspects dans la théologie, trois zones. Vous voyez bien, trois zones pour essayer de comprendre la qualité de la pensée théologique. On peut la qualifier de trois manières différentes. On peut la qualifier à partir de l'autorité de l'Écriture. On peut la qualifier à partir de mes propres raisonnements et du raisonnement que j'ai acquis par ailleurs, et que je peux appliquer pour le mystère de la parole de Dieu. Et je peux me servir de l'autorité de certains philosophes. Bon, alors, arrivons maintenant à l'article 9. L'Écriture sainte doit-elle user de métaphores? Osée dit, j'ai multiplié les visions et par les prophètes, j'ai parlé en similitude. Or, présenter quelques vérités sous le couvert de similitude, c'est bien user de métaphores. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant. C'est dans saint Thomas, le similitudine est metaphoricum. Quelque chose qui est représenté sous forme de similitude est métaphorique. Vous savez, c'est la fameuse chose qu'on trouve au début de la Somme, à propos de la simplicité de Dieu. On parle que Dieu marche. Dieu marchait. Tous les soirs, faisait sa petite promenade, hein, selon la Genèse. Hein. Dieu marchait, faisait, pour être de bonne humeur, hein, tous les jours, une demi-heure dans l'Éden. Donc, il faisait sa petite marche. Mais, non. Alors, c'est une pensée métaphorique, quand on dit ça. Donc, on parle, Père, c'est le lui-même. C'est métaphorique. Vous n'allez pas me dire que c'est analogie propre. Non. C'est métaphorique. Pourquoi ? Parce que la marche implique d'avoir des pieds. Normalement. Alors, Dieu n'a pas de corps. Si Dieu n'a pas de corps, que j'attribue à Dieu quelque chose qui est propre au corps, c'est métaphorique. Tout ce qui est relié essentiellement au sensible, quand c'est appliqué à Dieu, c'est métaphorique. Mais ça, c'est très important, vous voyez. C'est là où on voit tout de suite la différence du regard du théologien à l'égard de l'Écriture et de l'exégèse. Il faut être un théologien pour discerner ce qui est métaphorique et ce qui n'est pas métaphorique. Quand c'est aussi gros que marcher, ça va encore. Mais vous voyez, on voit très bien que pour certains, tout est mis sur le même plan. Les colères de Dieu, est-ce que c'est métaphorique ? ou est-ce qu'au contraire, c'est propre? Quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », est-ce que c'est métaphorique ou est-ce que c'est propre? C'est pas toujours commode, vous voyez, de bien distinguer. Hein. Donc, il faut bien réfléchir là-dessus. Alors, voyez comment ça d'abord commence. Il convient certainement à la Sainte Écriture de nous livrer les choses divines et spirituelles sous le voile de similitudes empruntées aux choses corporelles. Dieu, en effet, pourvoit à tous les êtres en conformité à leur nature. Or, il est naturel à l'homme de s'élever à l'intelligible par le sensible, parce que toute notre connaissance prend son origine des sens. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. La connaissance est d'abord symbolique. À la Sainte Écriture, de nous livrer les choses divines et spirituelles sous le voile de similitudes empruntées aux choses corporelles. Dieu, en effet, pourvoit à tous les êtres en conformité à leur nature. Or, il est naturel à l'homme de s'élever à l'intelligible par le sensible, parce que toute notre connaissance prend son origine des sens. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. La connaissance est d'abord symbolique. C'est vrai, notre connaissance est d'abord symbolique. Or, il est naturel à l'homme de s'élever à l'intelligible par le sensible, parce que toute notre connaissance prend son origine des sens. Il est donc parfaitement convenable que dans l'Écriture sainte, les choses spirituelles nous soient livrées au moyen de métaphores corporelles. Donc ceci, c'est l'adaptation divine par rapport à nous. Nous commençons par connaître les choses sensibles. Et des choses sensibles, nous connaissons les choses spirituelles. Vous savez bien que pour saint Thomas, tout ce qui est dans l'intelligence est passé par les sens. Et ça, je crois qu'il faut le maintenir. Les néoplatoniciens ne maintiennent pas. Ils disent qu'il y a en nous des choses qui viennent directement de Dieu. Donc, il y a des idées innées qui viennent directement de Dieu, qui ne sont pas passées par le sensible. Tandis que pour saint Thomas, le réalisme de saint Thomas consiste à dire que tout ce qui est dans les sens, je veux dire tout ce qui est dans l'intelligence, est d'abord passé par les sens. C'est là ce que dit Denis au livre des hiérarchies célestes. Alors n'oubliez pas que pour saint Thomas, Denis, c'est le grand Denis. Alors ça, c'est donc une grande autorité, Denis des Arches et des Apôtres. C'est là ce que dit Denis au livre des hiérarchies célestes. Le rayon divin ne peut luire pour nous qu'enveloppé par la diversité des rayons sacrés. De plus, l'Écriture étant proposée de façon commune à tous, selon ce mot de l'apôtre, je me dois aux savants et aux ignorants, il lui convient de présenter les réalités spirituelles sous la forme de similitudes empruntées au corps, afin que, par ce moyen, tout au moins les simples la comprennent, eux qui ne sont pas aptes à saisir en elles-mêmes les réalités intelligibles. Donc c'est par une miséricorde de Dieu, ça. C'est la miséricorde de Dieu qui veut que tout le monde puisse comprendre l'Écriture. Mais c'est merveilleux, ça. Tandis qu'aujourd'hui, on dirait, seuls les exégètes peuvent comprendre l'Écriture. Mais c'est tout à fait contraire à la miséricorde de Dieu. C'est un manque de miséricorde de Dieu, ça. Si Dieu ne parle que pour les exégètes. Dieu parle pour le croyant. Dieu parle pour le croyant. Et le croyant reçoit l'Écriture en fonction de l'intensité de sa foi. Et donc, il peut recevoir l'Écriture de façon beaucoup plus profonde qu'un exégète qui a très peu de foi et qui a une très grande science. Alors, il reçoit beaucoup moins bien, il comprend beaucoup moins bien. Il comprend l'écorce, mais il ne comprend pas la morale, pour parler comme Sainte Catherine. Ça, c'est très important de comprendre ça. Très important de comprendre que le fait, l'Écriture, est donnée aux croyants. Et c'est pour ça que Dieu lui donne ce mode particulier d'un langage symbolique, d'un langage métaphorique. Pour que tout le monde puisse être capable de le recevoir. Alors, voyons. Objection première. Il ne semble pas. Ce qui appartient en propre à une doctrine tout à fait inférieure ne paraît pas convenir à la doctrine sacrée qui, nous l'avons vu, nous le savons, occupe le sommet du savoir. Or, l'exemple de similitudes diverses et de représentations sensibles et de fait et le fait de la poétique qui vient en dernier rang parmi toutes les sciences. Saint Thomas souligne la poétique d'Aristote. User de similitudes de ce genre ne convient donc pas à la science sacrée. Réponse de Saint Thomas. La poétique use de métaphores pour l'usage elle-même, car l'image des choses nous est naturellement agréable. La doctrine sacrée, elle, use de ce procédé par nécessité et dans un but utilitaire, comme nous l'avons dit. Donc, on voit très bien ce qu'il nous a montré ici. C'est que, de fait, l'Écriture est donnée à tous. Si l'Écriture est donnée à tous, il faut que l'Écriture puisse atteindre la connaissance de ceux qui sont les moins cultivés. Puisque la foi ne nous apporte pas une nouvelle intelligence, mais que la foi est reçue dans l'intelligence comme une greffe, la foi n'est pas donnée en proportion de notre intelligence. Il y a des gens qui peuvent avoir une intelligence remarquable et qui ont une toute petite foi à l'ensemble des équilibres. Il y a des gens qui peuvent avoir une très grande intelligence, donc une petite foi, ou au contraire une très grande foi, une petite intelligence. Du moins, une intelligence peu développée. Ça, c'est évident. C'est évident que c'est, les deux choses ne sont pas toujours en harmonie. Alors, voyons tout de suite la seconde objection. La doctrine sacrée paraît avoir pour but de rendre la vérité manifeste. C'est pourquoi ceux qui accomplissent cette tâche se voient promettre une récompense. Ceux qui me mettent en lumière auront la vie éternelle de la sagesse. Or, de telles similitudes cachent la vérité. Par conséquent, il ne convient pas à cette doctrine de présenter les réalités divines par des similitudes empruntées au monde corporel. Voyons la réponse. Le rayon de la divine révélation, nous dit Denis, n'est point supprimé par les figures sensibles qui le voilent. Il demeure dans sa vérité, en sorte qu'il ne soit pas permis aux enfants, qu'il ne soit pas permis aux esprits auxquels est faite la révélation, de s'en tenir aux images mêmes. Il les élève jusqu'à la connaissance des choses intelligibles, et par leur intermédiaire, les autres en sont également instruits. C'est pourquoi ce qui est livré en un endroit d'écriture, sous des métaphores, est expliqué plus clairement en un autre passage de l'écriture. Du reste, l'obscurité elle-même des figures est utile, tant pour l'exercice des esprits studieux que vis-à-vis des moqueries des infidèles au sujet desquels saint Matthieu dit « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré ». Vous voyez les deux raisons importantes. Ça, c'est saint Thomas les prend ici directement au Père de l'Église. Les deux raisons pour lesquelles la vérité est cachée sous le voile d'un symbole, sous le voile de métaphore. Parce que la vérité divine n'est pas donnée aux chiens. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Et l'autre point de vue, c'est pour que, de fait, l'homme puisse chercher les lieux parallèles et par là progresser. Enfin, c'est Dieu qui veut les théologies. Parce que Dieu aurait pu très bien nous donner une théologie révélée. Non, il veut toujours notre concours. Il veut que ce soit par nous-mêmes que nous arrivions à nous servir de l'écriture d'une façon nouvelle.